Voilà. Donc, on arrive au siècle des Lumières. Au XVIIIe siècle, on trouve aussi chez les encyclopédistes des traces d'antisémitisme gréco-romain. Ainsi, les clichés païens transmis au Moyen-Âge ont survécu au siècle des Lumières. Plutôt que de disparaître avec les idées républicaines, l'antisémitisme trouve une nouvelle forme d'expression. On n'accuse plus les Juifs d'avoir crucifié le Christ, mais on les tient pour responsables de tous les crimes commis au nom du monothéisme. Leur religion, fossilisée, sera un obstacle au progrès humain. La Bible hébraïque est calomniée comme une compilation d'actes de cruauté, de folie et de bêtise. Ces diatribes sont reprises par de grands penseurs des Lumières comme Voltaire, Diderot ou, dans une moindre mesure, Rousseau. Cet antisémitisme doit être considéré comme l'expression philosophique de la crise religieuse. L'attaque contre les racines juives du christianisme mène logiquement à une critique du judaïsme. En Italie et en Allemagne, l'émancipation fut apportée aux Juifs par les armées de la République et l'Empire. Napoléon devint le héros d'Israël, le libérateur tant attendu. Celui dont la puissante main avait abattu les barrières du ghetto à Rome. Les portes du dernier ghetto s'ouvrirent en 1870 et les Juifs purent finalement devenir des citoyens à part entière de la ville de Saint-Pierre. À la fin des années 1800, naissent le mythe du complot juif. Cette vision du complot juif se matérialisa par la diffusion de ce livre « Les protocoles de sages des Sions », concocté à Paris par la police secrète du tsar de Russie. Ce livre est en fait un faux. C'est un livre de propagande antisémite, mais il va cependant être vendu par milliers. Il est aujourd'hui interdit de le vendre en Europe, mais on peut encore le trouver sur Internet et dans les librairies, notamment dans de nombreux pays arabes. Il faut savoir qu'en automne 2002, fut présenté un feuilleton télévisé en Égypte basé sur les protocoles des sages de Sion. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on réfléchit sur l'histoire de l'antisémitisme en Allemagne et en France, qu'à la même époque, les Stettlach d'Europe orientale étaient ravagés par les pogroms. Après la montée d'Hitler au pouvoir, l'antisémitisme nazi connut une radicalisation progressive. Les premières mesures discriminatoires contre les Juifs sont adoptées dès le printemps 1933. Elles sont étendues 2 ans plus tard par les lois de Nuremberg qui effaçaient complètement tous les acquis d'un siècle d'émancipation et se transforment en une véritable persécution après la vague des pogroms déclenchée en 1938, pendant la tristement célèbre Nuit de Cristal. L'année suivante, avec l'éclatement de la guerre et l'invasion de la Pologne, le régime nazi entame la déportation des Juifs vers les ghettos et les camps de concentration. Auschwitz fut le produit de la fusion de la biologie raciale avec la technique et les forces de destruction dont dispose une société industrielle moderne. Auschwitz ne doit pas être vu comme une spécificité allemande, mais plutôt comme une tragédie de l'Europe du XXe siècle, ce qui élargit la notion de responsabilité historique. La violation des tombes de Carpentras, des tombes qui témoignent d'une des plus anciennes communautés juives de France, nous montre que la réflexion sur l'histoire de l'antisémitisme est loin d'être inactuelle. Ces faits suscitent l'horreur et l'indignation, mais ils questionnent aussi notre conscience et notre culture. L'affaire Dreyfus. En 1894, l'affaire Dreyfus ébranle la France. Alfred Dreyfus, un officier de l'armée d'origine juive, est accusé de vendre des secrets militaires aux Allemands. Son procès conduit à une vague nationale d'antisémitisme. Il n'apparut que plus tard que la hiérarchie militaire avait délibérément supprimé des preuves décisives lors du procès afin de se protéger. Exilé à 8000 km de chez lui, sur l'île du Diable, enfermé dans une case de 4 mètres sur 4, entouré d'une palissade qui l'empêchait de voir la mer, surveillé en permanence par une dizaine de gardiens, à qui il n'avait pas le droit d'adresser la parole, mis au fer chaque nuit, Dreyfus n'exagérait pas, quand il disait avoir vécu durant 5 ans retranché du monde des vivants. C'est de cette solitude insupportable que témoignent ces cahiers. Celle d'un homme qui, pour tuer le temps et ne pas sombrer dans la folie, passait ses journées à faire des exercices d'anglais et de mathématiques. Il était polytechnicien. Ou alors, il recopiait des pages entières de livres et de revues. Pendant sa captivité, à l'île du Diable, d'avril 1895 à juin 1899, Alfred Dreyfus n'a pas cessé d'écrire. Certains de ses textes sont connus depuis longtemps. C'est le cas de son journal intitulé « 5 années de ma vie », paru en 1901 et plusieurs fois réimprimé. Sa pudeur rend d'autant plus bouleversante certaines phrases, comme celle-ci, écrite fin 1898 et placée entre un texte consacré à Corneille et un autre à George Sand. « Je n'arrive plus à dormir. La pensée de ma chère femme, de mes enfants, de tous, s'est tellement ancrée dans ma tête qu'elle ne saurait plus en sortir. Je voudrais avoir un pouvoir surhumain pour jeter un coup d'œil sur ceux qui me sont chers. » Le frère de Dreyfus, Mathieu, est convaincu de l'innocence de son frère, et il va passer tout son temps et toute son énergie pour qu'il soit acquitté. Lorsque l'écrivain Émile Zola publia son « J'accuse », il déclencha un véritable tumulte au Parlement. Finalement, Alfred Dreyfus fut acquitté et relâché le 21 septembre 1899. Le pays tout entier fut profondément divisé par cette affaire qui suscita de violentes passions jusqu'à l'intérieur même des familles. La Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, l'horreur. Un historien de la Shoah, Raoul Hilberg, a déclaré « Les premiers chrétiens ont dit aux juifs « Vous ne pouvez pas vivre parmi nous en tant que juifs ». Les autorités séculières qui ont ensuite pris le pouvoir leur ont dit « Vous ne pouvez pas vivre parmi nous ». Et les nazis ont finalement décrété « Vous ne pouvez pas vivre ». Publication du rapport intitulé « La Belgique docile ». À la mi-février 2007, le Sénat de Belgique a reçu le rapport de 1114 pages rédigé par les historiens du CEGES. Ce rapport évalue l'attitude de l'administration de l'État sous l'occupation allemande, de mai 1940 à septembre 1944. L'étude couvre la période de 1930 à 1950, soit depuis la montée du nazisme jusqu'au procès qui suivirent la libération. La Belgique a activement collaboré. Une étude commandée par le gouvernement fédéral indique que l'État belge a collaboré activement à la persécution et à la déportation des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. L'État belge a adopté une attitude docile en accordant dans des domaines très divers mais cruciaux une collaboration indigne d'une démocratie à une politique désastreuse pour la population juive. Selon les conclusions de l'étude du Centre d'études et de documentation Guerre et Société Contemporaine, le CEGES, le pas de la collaboration passive à la collaboration active a rapidement été franchi, a indiqué le directeur du CEGES, Rudy van der Solar. Les ordonnances du 22 octobre 1941 établissent qui est considéré comme juif et qui ne l'est pas. Cette politique de ségrégation a mis en œuvre une violation en violation de l'ordre constitutionnel. Bon, oulala. Je reprends. Cette politique de ségrégation est mise en œuvre en violation de l'ordre constitutionnel et légal belge. Dès 1941, les secrétaires généraux et la haute magistrature négligent de mettre le holà à la dangereuse dynamique locale de la collaboration, souligne l'étude. L'étude du CEGES égratigne la personnalité du bourgmestre catholique Léo Delwaide, favorable à l'ordre nouveau. Le bourgmestre Delwaide penche vraisemblablement du côté de cette grande partie de l'élite de la droite belge qui en 1940 et 1941 souhaite se débarrasser définitivement de la démocratie, soutient le CEGES. Voilà. Là, je sais pas si on doit faire un commentaire ou...
C'est simplement pour dire que on connaît bien les collabos flamands en général, et on oublie que chez les Wallons, il y a aussi eu de nombreux collaborateurs, notamment Léon de Grel, dont on voit ici une photo en couverture de télémoustique. Et puis alors ici aussi, on le voit avec à gauche le symbole de Rex. Et ce qui est vraiment scandaleux, c'est qu'il y a une croix qui peut se créer au-dessus de la couronne. De nouveau, on implique le christianisme dans cette haine des juifs et cette lutte contre les juifs.
Le soutien du roi. Le rôle du palais est également épinglé. Il est clair qu'en 1940 à 1941, une grande partie de l'élite politico-administrative traditionnelle de la Belgique occupée soutient une forme d'ordre nouveau. Le 19 novembre 1940, le roi dit à son secrétaire, le comte Capelle, vous connaissez mes idées au sujet des Juifs. Le mal qu'ils ont fait n'est pas suffisamment connu. Ils sont les grands coupables de nos malheurs. L'étude n'est pas tendre non plus pour le gouvernement Pierlot, en exil à Londres. Si le Premier ministre s'exprime par principe contre les persécutions raciales et religieuses au début de 1942, cette posture reste pour l'essentiel de l'ordre du discours, souligne l'étude précisant que les réfugiés juifs ne recevront en général d'aide que lorsqu'ils possèdent la nationalité belge. L'étude du CEGES a été menée durant 2 ans et demi à la demande du Premier ministre Guy Verhofstadt, interpellé par des résolutions votées au Sénat à l'initiative de Philippe Mahou et Alain Destex. L'étude qui compte quelques 1100 pages se fonde notamment sur l'analyse de nouvelles sources primaires. Elle a été publiée en français chez Labor et en néerlandais chez Standard.
Voici une publicité d'un film, qui a été réalisé en 2008 et qui s'intitulait Modus Operandi. Et c'est un film documentaire qui remet justement en question l'attitude des autorités belges pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on peut voir notamment dans ce film ces chiffres. Vous pouvez les lire notamment.
Sur les 57 264 juifs fichés par la police de sécurité allemande, 25 257, dont 351 tziganes non fichés, sont déportés de Malines à Auschwitz, soit 44,4%. 1205 seulement, soit 4,77% des déportés, survivront en mai 1945.
Ici, voici des coupures de journaux qui disent qu'en octobre 2011, une étude a révélé que plus de 50% des Belges de moins de 25 ans ignorent que l'antisémitisme était un fondement de l'idéologie nazie. Donc c'est étonnant de voir que de nos jours, les jeunes ne réalisent pas que le nazisme, un des fondements du nazisme était justement l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine des juifs. Et malheureusement, ça ne s'améliore. Puis ici, on va voir une initiative. En 1995, Elio Di Rupo était alors ministre de l'Éducation. Il a proposé l'inclusion de l'histoire de la Shoah dans le cursus scolaire. Étonnant qu'en 1995, donc 50 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah ne faisait toujours pas partie officiellement du cursus scolaire. Moi, je trouve ça absolument scandaleux. Le 30 novembre 2011, le sénateur Philippe Mahou a proposé une résolution visant à reconnaître la responsabilité des autorités belges dans la persécution des Juifs de l'Égypte. Et grâce à Elio Di Rupo, quelque chose a quand même été fait. Est-ce que le son est branché? Alors on va regarder un extrait d'un journal télévisé.
Bonsoir, des excuses officielles de la bouche du Premier ministre. Le moment est historique et s'est déroulé à la caserne de Sainte de Malines où il y a tout juste 70 ans, près de 25 000 juifs furent envoyés dans les camps de la mort. Thomas de Bergeyck, Gilles Jungler.
À son arrivée, Eliodi Rupo est assailli par les jeunes pour une séance de dédicace improvisée. Une image cocasse, alors qu'à quelques mètres de là, l'atmosphère est bien plus lourde. Un homme distribue des étoiles de David. Il attend beaucoup du Premier ministre aujourd'hui.
Nous l'apportons parce que nous attendons une déclaration très forte du Premier ministre, c'est-à-dire une déclaration par laquelle il va enfin reconnaître la complicité de l'État belge. À ce moment-là, j'enlèverai mon étoile de la poitrine.
Avec pour témoin l'héritier du trône et de hauts représentants de l'État belge, Eliodi Rupo va faire un mea culpa public pour les déportations de juifs durant la Seconde Guerre mondiale.
En tant que Premier ministre du gouvernement belge, je présente les excuses de la Belgique à la communauté juive, même si les comportements de l'époque sont inexcusables.
À l'instar de Guy Verhofstadt il y a 10 ans, Eliodi Rupo condamnera le comportement des autorités de l'époque qui n'ont pas empêché le départ de 26 convois emmenant 25 000 juifs et tziganes depuis cette caserne d'Ossin vers les camps.
En prêtant leur concours à l'entreprise d'extermination mise en place par les nazis, ces autorités et à travers elles l'État belge ont manqué à leur devoir.
70 ans après les rafles de 42, qui sont tout de même symboliques pour la Belgique, cette reconnaissance vient vraiment à point nommé. C'est un acte particulièrement courageux de notre Premier ministre, et je tiens, au nom de la communauté juive, je suis l'un des responsables communautaires, à l'en remercier très sincèrement.
Les applaudissements seront très nourris pour un Premier ministre qui entend transformer les mots en actes. Eliodi Rupo demande au Sénat de débattre au plus vite sur une résolution à propos de la responsabilité de l'État belge durant la Seconde Guerre mondiale.
Et de nos jours. Et malheureusement, ici ne s'arrête pas l'histoire de l'antisémitisme. La tuerie de Toulouse, le 12 mars 2012, devant l'école Ozar HaTorah. 4 victimes. La tuerie au musée juif de Bruxelles, le 24 mai 2014. Aussi 4 victimes. Le mardi 18 novembre 2014, à Jérusalem, deux Palestiniens sont entrés peu après 7h du matin dans la synagogue de Keilat Yaakov au moment de la prière matinale, en attaquant les fidèles, dont 4 rabbins, à la hache, au couteau et au pistolet. Le vendredi 9 janvier 2015 à Paris, un terroriste entre dans un magasin juif, prend des clients en otage, en abat 4 et en blesse 4 autres. De nos jours, il est indéniable que la plupart des attaques contre les juifs sont organisées par des musulmans radicaux. Ceux-ci ne représentent qu'une minorité des musulmans, mais ils disent être les défendeurs de l'islam véritable, car ils disent vouloir mettre en pratique ce que le Coran enseigne, et ils estiment que les autres musulmans qui ne les suivent pas sont des infidèles. La haine des musulmans envers les juifs vient du fait que les juifs sont considérés comme des mécréants, infidèles, parce qu'ils ont adoré le veau d'or. Par conséquent, ils ne méritent que le mépris et la haine. Plusieurs versets du Coran les comparent à des singes et des cochons et déclarent qu'ils sont maudits. On voit donc que cette haine du juif existe déjà bien avant le conflit israélo-palestinien. Déjà le 30 décembre 1066, une foule d'Arabes à Granada, en Espagne, ont tué 5000 juifs car ils avaient l'impression que ceux-ci avaient trop de pouvoir politique. Les croisades menées par les chrétiens, à cette même époque, ont convaincu plus d'un musulman que les juifs sont véritablement leurs ennemis, comme cela est écrit dans le Coran. Puis, en 1465, pendant la révolte marocaine, des milliers de juifs furent tués dans la ville de Fès, au Maroc. Seuls 11 juifs survécurent. Parmi les pires persécutions des juifs, il faut compter celle des juifs qui habitent en Égypte entre les années 996 à 1301. Mais pour en revenir au conflit actuel, il est intéressant de noter que quelques passages dans le Coran déclarent que la terre d'Israël a été clairement assignée aux Juifs. Aujourd'hui, des groupes terroristes tels que les Frères musulmans, le Hezbollah, le Hamas, Daesh, ISIS et Boko Haram appellent les musulmans à mener le djihad non seulement contre Israël, mais aussi contre la société occidentale et les croisés, qui sont les chrétiens. Dans nos pays occidentaux, les médias ont tendance à systématiquement dépeindre Israël comme l'oppresseur, comme le guerrier fort et redoutable qui écrase tous ceux qui se trouvent sur son passage. Aujourd'hui, on n'ose plus se déclarer antisémite, mais il est à la mode de se déclarer antisioniste. Pourtant, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà ce qu'en disait le pasteur baptiste Martin Luther King. Le 25 mars 1968, moins de 2 semaines avant sa mort tragique, Martin Luther King déclara « La paix pour Israël signifie sa sécurité, et nous devons soutenir de toute notre force son droit à l'existence et son intégrité territoriale. Je regarde Israël comme étant un des hauts lieux de la démocratie dans le monde, et un exemple merveilleux de ce qui peut être accompli. Comment le désordre peut être transformé en une oasis de fraternité et de démocratie. La paix pour Israël veut dire sa sécurité, et cette sécurité doit être bien réelle. » Et puis lors d'une de ses dernières apparitions publiques à l'université de Harvard, peu avant sa mort le 4 avril 1968, un étudiant s'est levé et a demandé à Martin Luther King de donner son opinion sur le sionisme. Les questions étaient évidemment provocatrices, mais le docteur King lui a répondu. Lorsque les gens critiquent le sionisme, ils pensent aux juifs, donc il est bien question d'antisémitisme. Et qu'en est-il de nos églises évangéliques? Nous sommes si fiers de connaître la vérité et de marcher selon les enseignements bibliques. Mais en est-il ainsi? Saviez-vous que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les églises évangéliques allemandes ont déclaré officiellement qu'il fallait prier pour Adolf Hitler, car Dieu utilisait cet homme pour restaurer l'économie et la grandeur de l'Allemagne. Les églises pentecôtistes sont même allées jusqu'à proclamer que Adolf Hitler était un instrument de Dieu pour apporter l'accomplissement des prophéties concernant les afflictions et les punitions du peuple juif. Nous devons demander pardon à Dieu pour notre esprit de supériorité vis-à-vis des juifs, pour notre orgueil spirituel, pour notre indifférence à leur égard et pour notre refus de les aider dans leurs souffrances. Le pape Jean-Paul II, lors de sa visite à la synagogue de Rome en avril 1986, a déclaré que les juifs sont nos frères aînés. Et Jésus déclara que nous serons jugés pour la façon dont nous aurons traité ses frères, Adelphos. Frères de sang, issus du même sein, donc Delphos, et nous voyons ça dans Matthieu 25. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ça, que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, Adelphos, c'est à moi que vous les avez faites. À part quelques exceptions qu'ont fait les églises évangéliques pour arrêter les atrocités contre les juifs à travers les siècles. Et aujourd'hui, quelle est l'attitude des chrétiens envers Israël et envers les juifs? La plupart des chrétiens sont complètement ignorants de l'appel et du rôle qu'Israël a joué et jouera encore dans le plan de Dieu. Ils ne connaissent pas le lien qui les unit au peuple juif et ils sont ignorants de la souche de laquelle leur foi est issue. Le pasteur Adolf Hunziker, né à Vevey en Suisse, a fait des études en Angleterre et des stages pastoraux en France, notamment à Lille. Il fonda à Genève en 1935 la première église évangélique de réveil de Suisse. C'était le 20 novembre 1935. Dans son article publié en 1975, « Israël, nous n'avons pas bonne conscience », il ne désire pas faire le procès du christianisme qui s'est grossièrement trompé dans ses séductions philosophiques, politiques, sociales et religieuses envers Israël. Partout où le christianisme a progressé, les juifs sont devenus le bouc émissaire, leur souffre-douleur. Charles Péguy, écrivain français qui a vécu de 1873 à 1914, écrivit « Je connais bien ce peuple. Il n'y a pas sur sa peau un seul point qui ne soit douloureux, où il n'y ait pas la mémoire d'une souffrance, une cicatrice, une blessure d'Orient ou d'Occident. » Oui, les juifs devinrent le souffre-douleur universel. Ils furent 7 fois expulsés de France. 17 tonnes d'or furent récupérées des Juifs, bijoux, dents, etc. Le pasteur Hunsicker pose la question. Comment et pourquoi de telles aberrations sont-elles possibles? Comme réponse, il énumère des raisons religieuses, sociales et spirituelles. Les raisons religieuses. Les Juifs furent accusés de déicide, et ceci donna un bon alibi en alimentant la haine et le mépris, par un enseignement religieux, borné et tendancieux. Raisons sociales. Les Juifs furent enviés par les ignorants à cause de leur savoir, leur culture et leur réussite, faisaient l'envie des pauvres et la jalousie des riches. On en a fait des Juifs les responsables des crises sociales. Raison spirituelle. Quand le chrétien ne vit plus selon l'esprit du christianisme, alors s'installe en lui une mauvaise conscience et il devient agressif et cherche un bouc émissaire. Il existe maintenant un antisémitisme larvé ou inconscient de nombreux chrétiens et européens qui prend une nouvelle forme, l'antisionisme. Comme remède, le pasteur propose la repentance. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, verset 13. Une repentance accompagnée de réparation pratique des torts. Il faut également lever l'hypocrisie qui pèse sur notre histoire par rapport à Israël. En conclusion, nous ne devons pas oublier l'avertissement de Paul. Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches, car si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Romains 11, verset 18.